le dos bien droit, la tête haute et le regard tout aussi brûlant, Ninevé tira sur sa natte. En d'autres circonstances, Avienda aurait éprouvé une sincère compassion pour la cible de la cinglante réplique que préparait l'ancienne sage-dame. La langue de cette femme était plus piquante que les épines d'une cigale. Et ce n'était pas peu dire. D'un autre côté, la sœur rouge s'était crue autorisée à regarder la jeune Aïel comme si elle était transparente. Quoi qu'il arrive, une matriarche ne s'abaissait jamais à frapper quelqu'un. Certes, mais Avienda n'était qu'une apprentie. Si elle cassait la figure à Teslin Baradon, ça ne lui coûterait peut-être pas de G. Alors qu'elle allait conseiller à la Aes Sedai de se défendre, si elle était une femme, Ninevé ouvrit aussi la bouche. Mais ce fut Elaine qui devança tout le monde.
« Ce que nous, mijotons, ne te regarde pas, Teslin !»
Alors que la fille héritière se tenait droite comme un i, ses yeux bleus glaciaux, un rayon de soleil vint frapper ses magnifiques cheveux blonds tirant sur le roux, leur donnant des reflets de feu. À cet instant, comparée à Elaine, une maîtresse du toit aurait ressemblé à une gardienne de chèvre, ayant bu beaucoup trop d'ouscaille. En matière de maintien au teint, la fille héritière n'avait pas son égale. Et son ton était à la hauteur de son allure.
« Tu n'as aucun droit de te mêler de ce que nous faisons, ni des agissements de n'importe quelle sœur. Aucun droit. Alors, ne viens pas fourrer ton nez sous nos vestes, espèce de jambon d'été. Et réjouis-toi plutôt que nous ne décidions pas de te faire payer ton ralliement à l'usurpatrice qui se fait appeler chère d'Amirline. »
Avienda jeta un regard perplexe à sa presque sœur. Ne pas fourrer son nez sous leurs vestes? Mais Elaine et elle, au moins, n'en portaient pas. Et qu'était donc un jambon d'été? Que voulait dire cette tirade? Les gens des terres mouillées racontaient souvent des choses étranges. Mais là, toutes les autres femmes semblaient perplexes. Regardant bizarrement Elaine, seule Lane semblait comprendre. Et ne cachait pas sa stupéfaction. Mêlée d'une pointe d'amusement, aurait-on dit. Mais c'était difficile à déterminer. Parce qu'Anne Alain n'était pas du genre expressif. Teslin Baradon soupira et prit un air pincé. Ces derniers temps, Avienda s'efforçait d'appeler les gens des terres mouillées par une partie de leur nom, comme ils le faisaient entre eux. Quand elle procédait autrement, il pensait qu'elle avait un problème. Mais avec la sœur rouge, faire montre d'une telle familiarité lui semblait impensable.
« Je vous laisse à vos affaires, stupide gamine !»
marmonna la sœur.
« Faites plutôt attention à ne pas aller fourrer vos nez là où il ne faut pas. »
Alors que Teslin Baradon se détournait, rassemblant dignement sa jupe, Ninevé la retint par le bras. Sauf exception comme Lane, les gens de terre mouillée étaient du genre expressif, et le dilemme intérieur de l'ancienne sage-dame était visible sur son visage comme un nez au milieu d'une figure.
« Teslin, attends un peu. Jolene et toi, vous êtes peut-être en danger. Je l'ai dit à Tailine, mais je suppose qu'elle a eu peur de vous le répéter, ou qu'elle n'en a pas eu envie. Ce n'est pas le genre de chose dont on aime parler. »
Ninevé prit une grande inspiration, comme si elle songeait à ses propres appréhensions en la matière. Des craintes plus que justifiées. De toute façon, il n'y avait aucune honte à avoir peur, à condition de ne pas céder à la crainte et de ne pas la montrer. D'ailleurs, Avienda sentit son ventre se nouer quand Ninevé reprit.
« Mogadienne est venue à Eboudar, et elle y est peut-être encore. Avec un autre rejeté, qui sait. Et un golem, une créature de ténèbres immunisée contre le pouvoir. Ce monstre ressemble à un homme, mais il a été créé pour tuer les Aes Sedai. Les lames ne lui font rien, et il peut se glisser dans un trou de souris. De plus, la Jeanne Noire est ici. Enfin, une tempête approche. Mais pas une vraie tempête. Je la sens parce que j'ai ce don. Un don d'Aes Sedai, peut-être. Une menace fond sur Eboudar, bien plus grave que le vent, la pluie ou la foudre. Des rejetés. Une tempête qui n'en est pas une. Et une créature des ténèbres dont je n'ai jamais entendu parler.
Raya Teslin Baradon.
Sans oublier la Jeanne Noire. Pas la lumière. Rien que ça. Et le ténébreux en personne tant qu'on y est. »
Avec un sourire méprisant, la sœur rouge décrocha de sa manche la main de Ninevé.
« Quand tu seras revenu à la tour blanche, que tu n'aurais jamais dû quitter, en robe blanche de novice comme il convient, tu apprendras à ne pas perdre ton temps en vaine fantaisie et à ne surtout pas les raconter aux sœurs. »
Après avoir balayé le petit groupe du regard, de nouveau en faisant comme si Avienda n'existait pas, la sœur rouge s'éloigna d'un pas si vif que de pauvres serviteurs durent s'écarter pour ne pas être renversé sur son passage.
« Cette femme a l'outrecuidance de... »
s'étrangla Ninevé, en tirant sur sa natte à deux mains.
« Alors que je me suis forcé à... »
Elle dut reprendre son souffle.
« Au moins, j'aurais essayé. »
Non sans le regretter ensuite, apparemment.
« Exactement !»
approuva Elaine.
« Et avec plus d'insistance qu'elle en méritait. Nous dénier le statut d'Aes Sedai. Je ne supporterai plus ça de personne. C'est un outrage. Peut-on se fier à une telle femme ?»
demanda Avienda.
Il faut peut-être nous assurer qu'elle ne se mêle pas de nos affaires. »
Laïel baissa les yeux sur ses poings. Le genre d'argument que Tessine Baradon comprendrait. Cette femme méritait de tomber entre les mains de Mogadienne ou de quelque créature de ténèbres. Les imbéciles cherchaient le malheur avec une lanterne, et ils finissaient toujours par le trouver. Ninevé parut réfléchir à la proposition, mais elle ne lui fit pas écho.
« Si je ne la connaissais pas, je dirais qu'elle est sur le point de se retourner contre Laïda. Se pencher sur les abîmes politiques des sœurs donne vite le tournis. »
dit Elaine, sous-entendant que l'ancienne sage-dame aurait dû le savoir aussi bien qu'elle.
« Même une sœur rouge est susceptible de lâcher Laïda, et ce pour des raisons qui dépassent notre imagination. Elle a pu aussi manœuvrer pour nous faire baisser notre garde, histoire de nous piéger et de nous livrer pieds et poings liés à l'usurpatrice. Ou encore... »
L'âne tout sauta soudain.
« Si des rejetés doivent arriver ici, » dit-il d'un ton parfaitement égal, « ils risquent de ne pas tarder, tout comme ce golem. Du coup, il serait judicieux que nous filions ailleurs. »
« Avec les Aes Sedai, il faut toujours faire montre d'un peu de patience, »
murmura Birgit, comme si elle citait quelque chose.
« Mais les régentes des vents semblent n'en avoir aucune. En conséquence, vous devriez oublier Tesline et vous souvenir de Reneil. »
Elaine et Ninevé jetèrent aux deux champions des regards assez froids pour impressionner une dizaine de chiens de pierre. Même si elles avaient décidé que c'était la seule solution, l'idée de fuir devant les rejetés et leurs golems leur déplaisait souverainement. Et se faire dire qu'elles devaient se dépêcher parce que les régentes des vents les attendaient ne risquait pas de leur perdre davantage. Avienda aurait volontiers étudié le regard et l'expression des deux Aes Sedai, histoire de s'en inspirer. Avec un simple regard ou quelques mots, les matriarches parvenaient à obtenir des résultats qui exigeaient pour elles le recours à la menace de ses poings ou de ses lances. De plus, Sorilea et les autres atteignaient leurs objectifs bien plus vite qu'elles, et bien plus souvent. Oui, observer Ninevé et Elaine aurait pu être riche d'enseignements. N'était que leur regard n'avait pas l'ombre d'un effet sur les deux champions. Birgit sourit, puis regarda l'âne, qui haussa très légèrement les épaules. L'expression d'une indulgence presque paternelle. Elaine et Ninevé renoncèrent. Après avoir tiré sans hâte sur le devant de leur robe, qui n'en avait pas besoin, elles prirent chacune Avienda par un bras et se remirent en chemin, sans daigner jeter un coup d'œil en arrière pour voir si les champions suivaient le mouvement. Bien entendu, grâce au lien, Elaine n'en avait pas besoin. Ninevé non plus, probablement. Même si Anne Alain restait liée à une autre Aes Sedai, son cœur, sous la forme d'une chevalière, était suspendu autour du cou de l'ancienne sage-dame. Les deux femmes s'efforcèrent de marcher lentement, afin de ne pas montrer qu'elles tenaient compte de l'avis de leur champion. En réalité, elles faisaient surtout semblant de traîner, accélérant discrètement le pas. Histoire de donner le change, elles se mirent à bavarder comme si elles étaient en train de siroter une infusion, en choisissant délibérément les sujets les plus frivoles. Elaine se plaignit amèrement de n'avoir pas pu profiter du festival des oiseaux la veille, et ne jugea pas bon de rosir en évoquant les tenues plus que légères que portaient ses participants. Ninevé ne rosit pas davantage, mais elle s'empressa d'enchaîner sur la fête des braises, qui aurait lieu le soir même. Plusieurs serviteurs affirmaient qu'il y aurait des feux d'artifice, l'œuvre d'un illuminateur réfugié à Eboudar, précisait-il. Quelques ménageries étaient venues en ville avec leurs animaux exotiques et leurs acrobates. Ayant voyagé avec une troupe de ce genre, Elaine et Ninevé avaient beaucoup à dire sur le sujet. Ensuite, elles parlèrent de couturières et comparèrent les mérites des différentes sortes de dentelles disponibles à Eboudar. Puis elles passèrent à la soie et au lin. Non sans surprise, Avienda s'avisa qu'elle répondait avec plaisir aux compliments sur sa robe de soie grise et sur les autres vêtements que lui avait offert Taïlin Quintara. Sans parler des bas, des combinaisons et même des bijoux qui allaient avec. En matière de cadeaux, Elaine et Ninevé n'avaient pas été lésées. Toutes ces merveilles, rangées dans des coffres ou des ballots, avaient été apportées aux écuries par des serviteurs, avec leurs sacoches de sel.
« Pourquoi cette expression maussade, Avienda ?»
demanda Elaine en tapotant le bras de Laïel.
« Ne t'en fais donc pas. Tu connais le tissage, et tu t'en tireras très bien. »
Ninevé se pencha pour murmurer à l'oreille d'Avienda.
« Je te ferai une de mes infusions, dès que je pourrai. J'en connais plusieurs qui soigneront ton estomac, ou toute autre petite indisposition féminine. »
Les deux femmes ne comprenaient pas. Aucune infusion, pas plus que des propos amicaux, ne pourrait apaiser Avienda.
Bon sang! Elle adorait discuter de colifichets.
Y avait-il de quoi grogner de dégoût ou gémir de désespoir? Au contact de ses amis, elle se ramollissait. Avant, elle n'aurait même pas jeté un coup d'œil à la robe d'une femme, sauf si elle risquait de dissimuler une arme. La coupe et la couleur lui étaient indifférentes. et jamais elle ne se serait demandé de quoi elle aurait l'air dans ce modèle. Il était plus que temps de quitter cette ville et de fuir les palais des terres mouillées. Encore un peu, et elle allait se mettre à minauder. Elaine et Nineveh n'étaient pas du genre à le faire. Mais il était de notoriété commune que toutes les femmes des terres mouillées minaudaient, et Avienda, de toute évidence, était devenue aussi mollassonne que ses bécasses. Marcher bras dessous en parlant de dentelle. Les bras ainsi occupés, comment dégainer un couteau en cas d'attaque? Bien sûr, l'acier risquait de ne servir à rien face aux agresseurs potentiels. Mais la jeune Aiel se fiait déjà à sa lame, bien longtemps avant d'avoir découvert son aptitude à canaliser le pouvoir. Si quelqu'un tentait de s'en prendre à Elaine, ou à Nineveh, puisque Avienda, comme Birgit et Lan, avaient promis à Matt Cotton de protéger les deux femmes, elle n'hésiterait pas à lui planter son arme dans la poitrine. Mais s'intéresser à la dentelle, quand même. Comment pouvait-on tomber si bas? De grandes portes à deux battants s'ouvraient sur trois côtés des plus grandes écuries du palais. Des domestiques en livrée blanc et vert allaient et venaient devant chacune de ces entrées. À l'intérieur, des chevaux sellés ou chargés de paniers d'osier attendaient le départ. Le cri des mouettes rappela à Avienda combien était proche la mer, cette flaque d'eau géante. Comme de juste, la chaleur était accablante. Mais ça ne faisait rien pour apaiser la tension ambiante. Avienda avait vu des rixes sanglantes éclater dans des lieux où l'atmosphère était moins tendue qu'ici. Vêtue de soie rouge et jaune, les bras croisés sur la poitrine, Reneil Din Kalon attendait, un peu en avant de 19 autres femmes à la peau noire. Les pieds nus, les mains couvertes de tatouages, toutes portaient des chemisiers de couleur vive et un pantalon large tenu par une ceinture d'une teinte tout aussi criarde. La sueur qui ruisselait sur leurs visages, n'entamant pas leur digne gravité, certaines humaient les arômes montant de la petite boîte d'or ajourée accrochée autour de leur cou. Reneil Din Kalon portait 5 grosses boucles d'or à chaque oreille. L'une étant reliée à son anneau nasal par une chaîne où pendait une multitude de médaillons. Les 3 femmes qui se tenaient juste derrière elle n'arboraient que 8 boucles en tout et beaucoup moins de médaillons. C'est ainsi que les Atta-Anyere marquaient la différence hiérarchique, entre les femmes en tout cas. Et toutes, ici, obéissaient à Reneil Din Kalon, la régente des vents de la maîtresse des navires du peuple de la mer. Cela dit, même les 2 apprentis qui se tenaient au dernier rang, avec un chemisier de lin et non de soie, avaient droit à leurs ornements en or. Quand elle aperçut Avienda et ses compagnons, Reneil Din Kalon regarda le soleil, qui avait largement dépassé son zénith. Une manière sans équivoque d'exprimer son agacement devant un retard qu'elle jugeait offensant. Elaine et Nineveh s'arrêtèrent net, forçant Avienda à les imiter. Puis elles se regardèrent en échangeant de lourds soupirs. Mais comment auraient-elles pu espérer échapper à leurs obligations? Elles étaient bel et bien prises au piège. Et c'était elles-mêmes qui s'étaient jetées dedans tête baissée.
« Je vais m'occuper du cercle du tricot, »
souffla Nineveh.
« Et moi ?»
répondit Elaine.
« Je vais voir si les sœurs sont prêtes. »
Lâchant Avienda, les 2 femmes partirent dans des directions opposées, chacune suivie comme son ombre par son champion ou sa championne. Avienda se retrouva donc seule face à Reneil Din Kalon, une femme dominatrice, consciente de ne pouvoir être délogée de sa position confortable. Par bonheur, elle se tourna très vite vers ses compagnes, les autres régentes des vents se groupant autour d'elle. Frapper cette femme, même une seule fois, aurait sûrement tout gâché. Consciente de l'enjeu, Avienda essaya de ne pas foudroyer du regard les Atta-Anyere. Mais malgré tous ses efforts, ce ne fut pas facile. Personne n'avait le droit de coincer le cou de sa presque sœur dans un bâton fourchu, comme si elle était une vipère. Des anneaux dans les oreilles. Avienda aurait donné cher pour pouvoir tirer sur la chaîne nasale, histoire de voir la tête que ferait Reneil. Rassemblée à l'autre bout des écuries, la petite Merylil Sian-Devin et 4 autres sœurs regardaient aussi les régentes des vents avec une hostilité mal dissimulée par leur masque d'Aes Sedai. Même Vanden Namel et sa première sœur Adeleas, son reflet dans un miroir, aurait-on dit, en perdaient leur impassibilité naturelle. De temps en temps, l'une ou l'autre de ces Aes Sedai tirait sur sa fine cape de voyage en lin ou sur le devant de sa jupe d'équitation. Une façon de tromper l'ennui, même s'il y avait bien un peu de vent pour faire bouger leurs vêtements et les capes caméléons des 5 champions, qui se tenaient un peu à l'écart. Seul Sareita, qui surveillait un baluchon rond, on eût dit qu'il contenait un disque géant, ne trahissait pas son impatience par des gestes nerveux. Cela dit, elle fronçait les sourcils. Paul, la servante de Merylil, se tenait derrière les sœurs, et elle tirait aussi la tête. Les Aes Sedai désapprouvaient sans nuance le marché passé par Elaine et Nineveh avec les Atta-Anyere. Depuis, ces femmes de la mer, descendues de leur bateau, avait le droit de regarder les sœurs avec une impatience agacée et pleine d'exigences. Mais ce marché, ou ce pacte, interdisait aux Aes Sedai de protester, les contraignant à étouffer d'indignation. Bien entendu, elles s'efforçaient de cacher leur irritation. Avec les gens des terres mouillées, ça marchait peut-être, mais aux yeux du Nayel. De l'autre côté de la cour, un troisième groupe de femmes attirait lui aussi l'attention des sœurs. Réanne Corley et les 10 autres survivantes du Cercle du Tricot, le conseil suprême de la famille en réalité, se ratatinaient sous ses regards malveillants. Pour se donner une contenance, elles se tamponnaient les joues avec un mouchoir brodé, remettaient en place leur grand chapeau de paille ou tiraient sur leur sobre jupe de laine remontée sur un côté pour dévoiler des jupons presque aussi criards que les tenues des Atan Miré. La crainte que leur inspiraient les rejetés et le golem, plus un certain nombre d'autres choses, ne faisait rien pour les apaiser. Et peut-être n'était-elle pas si à l'aise que ça de s'exhiber dans des robes au décolleté étroit, certes, mais vertigineusement plongeant. Presque toutes ces tricoteuses portaient sur leurs joues ou leur front les marques inévitables du passage des ans. Pourtant, elles faisaient penser à une bande de gamines surprises avec les doigts dans un pot de confiture. À une exception près, cependant, la solide Soumeko, qui, les poings plaqués sur les hanches, soutenait le regard des sœurs sans broncher. L'aura du Saïdar enveloppait une des tricoteuses, Kirstian, qui ne cessait pas de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule. Très claire de teint, peut-être 10 ans plus vieille que Ninevée, elle ne semblait pas à sa place avec ses compagnes. Et sa peau déjà blanche pâlissait encore plus, chaque fois que son regard croisait celui d'une Aes Sedai. Ninevée approcha des dirigeantes de la famille et leur sourit. Réanne et les autres parurent soudain soulagées. Un peu seulement, s'il fallait en juger par la façon dont elles regardaient l'âne. Un loup ne les aurait pas davantage effarouchées, et c'était assez bien vu, car le champion avait bel et bien quelque chose d'un loup. Chaque fois qu'une Aes Sedai regardait dans sa direction, c'était grâce à Ninevée. Pour une raison qui dépassait Avienda, l'ancienne sage-dame avait décidé d'enseigner la fierté et la dignité à ses femmes. Étrange, lorsqu'on songeait que Ninevée était elle aussi une sœur. Une matriarche n'aurait jamais appris à quelqu'un l'art de tenir la dragée haute à ses collègues. Si la formation de Ninevée donnait d'assez bons résultats, ça n'avait aucune influence en ce qui la concernait, même sur Soumeko, qui lui manifestait une évidente soumission. Les tricoteuses trouvaient étrange, pour ne pas dire plus, que de très jeunes femmes comme Elaine et Ninevée donnent des ordres à des sœurs bien plus âgées. Avienda aussi jugeait ça aberrant. Comment la puissance dans le pouvoir, une qualité innée, comme la couleur des yeux ou des cheveux, pouvait-elle l'emporter sur la sagesse et l'honneur que conféraient les ans? Même les vieilles sœurs obéissaient, et pour les membres de la famille, c'était suffisant. Presque aussi grande qu'Avienda, et la peau quasiment aussi mate que celle des Atan Miré, Yain ne regardait jamais Ninevée sans afficher un sourire obséquieux. Rousse, aux cheveux striés de blanc, Dimana baissait les yeux dès que ceux de l'ancienne sage-dame se posaient sur elle, et la blonde Sibella, dans les mêmes circonstances, plaquait une main sur sa bouche pour étouffer ses gloussements stupides. Malgré leur tenue typique des Boudards, aucune de ces femmes n'était native de l'Altara, à part Tamarla, mince et au teint bistre, qui ne venait pas de la capitale. À l'approche de Ninevée, les tricoteuses s'étaient écartées, révélant la femme en haillons poussiéreux agenouillée parmi elles, les poignets attachés et la tête cachée par une cagoule de cuir. Plus que les regards de Merylil ou l'angoisse des rejetés, c'était elle la cause de leur malaise. Tamarla retira la cagoule, dévoilant une masse de tresses incrustées de perles. Ispan Shefar tenta de se redresser et réussit à moitié, avant de s'affaisser de nouveau en battant des paupières et en gloussant bêtement. Sur ses joues lustrées de sueur, quelques contusions récoltées pendant sa capture gâchaient un peu l'intemporalité de ses traits. Pour Avienda, on l'avait trop bien traitée vu ses crimes. Les herbes que Ninevée lui avait fait avaler de force affaiblissaient son corps et troublaient sa lucidité. Malgré ça, Kirstian maintenait autour d'elle un bouclier mobilisant tout le pouvoir qu'elle était capable de canaliser. La sœur noire et messagère des ténèbres n'avait aucune chance de s'enfuir, même si elle n'avait pas été droguée, car Kirstian était aussi puissante dans le pouvoir que Réanne et que bon nombre d'Aes Sedai. Pourtant, même Soumeko évitait de regarder Ispan.
« Les sœurs devraient peut-être s'en occuper à présent, »
dit Réanne, d'une voix tremblante qui aurait pu appartenir à la prisonnière.
« Ninevée Sedai, nous ne sommes pas habilités à surveiller... veiller sur une Aes Sedai. C'est exact. »
ajouta nerveusement Soumeko.
Les Aes Sedai devraient la prendre en charge.
Cybella approuva du chef, et toutes les autres l'imitèrent. Convaincue d'être très inférieure aux Aes Sedai, ces femmes auraient sans doute préféré garder des Trollocs plutôt qu'une sœur. Depuis qu'Ispa ne portait plus la cagoule, les regards désapprobateurs de Merylil et des autres sœurs avaient changé. Sarita Tomanes, portant depuis peu son châle à franges marron, elle n'avait pas encore le visage sans âge d'une Aes Sedai, exprimait une révulsion qui aurait pu foudroyer à distance la sœur noire. Adéléas et Vanden, les mains serrant convulsivement le devant de leur robe, luttaient en vain pour cacher la haine que leur inspirait la traîtresse. Mais les regards qu'elles réservaient aux tricoteuses ne valaient guère mieux. Persuadées elles aussi que les femmes de la famille leur étaient de loin inférieures, elles les méprisaient. Mais ce n'était pas tout. Traîtresse ou non, Ispahan était une des leurs, ou l'avait été. Et elle seule avait le droit de la châtier. Avienda approuvait de tout cœur. Une promise qui trahissait ses sœurs mourait très lentement, et jamais sans connaître la honte. Sans douceur, Nineveh remit la cagoule, en réalité un sac de cuir sans trou pour les yeux, sur la tête d'Ispahan.
« Jusque-là, vous en êtes très bien sorti, et vous allez continuer. Si elle paraît reprendre ses esprits, redonnez-lui de ma mixture. Elle sera aussi ivre qu'une chèvre remplie de bière. Si elle refuse d'avaler, bouchez-lui le nez. Quand on fait ça et qu'on menace de la cogner, même une Aes Sedai finit par avaler. »
Rehan écarquilla les yeux et en resta bouche bée, comme toutes ses compagnes. À part Soumeko, qui hocha lentement la tête, mais ne put pas s'empêcher non plus de rouler des yeux comme des billes. Quand elle prononçait les mots Aes Sedai, ces femmes auraient tout aussi bien pu invoquer le Créateur. L'idée de pincer le nez d'une sœur, même complice des ténèbres, les remplissait d'horreur. Avoir l'expression des Aes Sedai, ça les enchantait tout aussi peu. Foudroyant Nineveh du regard, Merylil ouvrit la bouche pour lâcher une aménité. Mais Elaine arriva à son niveau à cet instant, et la sœur grise préféra s'en prendre à elle, après avoir jeté un coup d'œil désapprobateur à Birgit. Signe de son trouble, elle parla d'une voix haut-perchée, alors qu'elle était plutôt du genre discret en temps normal.
« Elaine, il faut que tu dises un mot à Nineveh. Ces femmes sont déjà désorientées et effrayées, et les perturber davantage ne donnera rien de bon. Si la chère dame Merlin a vraiment l'intention de les autoriser à venir à la tour... »
Merylil secoua la tête, comme si elle ne croyait pas un instant à ce qu'elle était en train de dire.
« Eh bien, dans ce cas, il faut qu'elles sachent très précisément ce que sera leur place, et c'est bien l'intention de la chère dame Merlin. »
coupa Elaine. Pour Nineveh, un ton ferme, c'était l'équivalent d'un poing brandi devant le nez de quelqu'un. La fille héritière, elle, faisait dans la force tranquille.
« Ces femmes vont avoir une seconde chance. Et si elles échouent, on ne les jettera pas dehors pour autant. Plus aucune femme capable de canaliser ne sera jamais expulsée de la Tour Blanche. Toutes en feront à jamais partie. »
Tapotant nerveusement le manche de son couteau, Avienda se demanda ce qu'il fallait penser de ça. Et Gwen, la chère dame Merlin à laquelle se référait Elaine, tenait en effet ce discours. C'était également une amie, mais pour elle, être une Aes Sedai passait avant tout. Pour son compte, Avienda n'avait aucune envie de faire partie de la tour. Et elle aurait parié que Sorilea et les autres matriarches partageaient ce sentiment. Merylil soupira et croisa humblement les mains. Malgré cette apparente soumission, elle continua à parler d'un ton inhabituellement aigu.
« Si tu le dis, Elaine. Mais à propos d'Ispahan, nous ne pouvons pas permettre que... »
Elaine leva une main, passant de la force tranquille à l'autorité sereine.
« Assez, Merylil. Vous devez déjà veiller sur la coupe des vents. Ce serait une charge suffisante pour n'importe qui. Et ça le sera pour vous. »
Merylil fit mine d'insister, mais elle se ravisa et inclina la tête. Sous le regard assuré d'Elaine, les autres Aes Sedai l'imitèrent, avec quelques réticences pour la plupart, mais pas toutes. Sarita ramassa vivement le baluchon rond qui gisait à ses pieds. Non sans peine, parce que ses bras n'étaient pas assez longs, elle serra la coupe des vents contre sa poitrine et fit un petit sourire nerveux à Elaine, comme pour lui montrer qu'elle ouvrait l'œil et le bon. Les Ataan Nyeré dévoraient le baluchon des yeux, se penchant en avant comme pour s'en emparer. Si elle l'avait fait, Avienda n'aurait pas été plus surprise que ça. Les Aes Sedai s'en aperçurent aussi. Sarita serrant plus fort le baluchon blanc et Merylil venant s'interposer entre sa collègue et les femmes du peuple de la mer. Toutes les sœurs firent un effort visible pour garder une expression neutre. Mais intérieurement, elles bouillaient. À leurs yeux, la coupe des vents leur revenait de droit, comme tout artefact utilisant ou utilisé par le pouvoir, quel que soit son propriétaire légitime. mais il y avait le fameux marché.
« Le soleil avance dans le ciel, Aes Sedai, »
lança Renail d'Incalon.
« Et le danger rôde, à vous en croire, en tout cas. Si vous pensez échapper à vos engagements en faisant traîner les choses, cessez de rêver. Essayez de violer le marché, et sur le cœur de mon père, je retournerai aussitôt sur mon bateau, en exigeant la coupe comme dédommagement, car elle est nôtre depuis la dislocation du monde. »
« On ne parle pas ainsi à des Aes Sedai !»
s'écria Rehan, scandalisé de la pointe de son chapeau à paille bleue à celle des chaussures qui dépassaient de ses jupons verts et blancs.
« Les mottes de Sindou auraient donc une langue ?»
lâcha Renail d'Incalon.
« Je m'étonne qu'elles osent s'en servir sans l'autorisation des sœurs. »
Aussitôt, des injures retentirent dans la cour de l'écurie, les tricoteuses et les hâtas admirés faisant assaut de véhémence. Des sauvages, chiffes molles, et bien d'autres gentillesses couvrirent la voix de Merylil, qui tentait en vain de faire taire les tricoteuses et de calmer les hâtas admirés. Hors d'elles, plusieurs régentes des vents cessèrent de tapoter le manche de leur couteau pour refermer la main dessus. Alors que l'aura du Saïdar enveloppait plusieurs représentantes du peuple de la mer, les tricoteuses parurent surprises. Mais ça ne les incita pas à se taire. Puis Soumeko s'unit à la source, vite imitée par Tamarla et Chilares, une femme mince comme une liane aux 12 yeux de biche. Avienda aurait voulu hurler de rage. Le sang allait couler, c'était certain. Bien entendu, elle soutiendrait le camp que choisirait Elaine, mais pour l'instant, sa presque sœur regardait les hâtas admirés et les tricoteuses avec la même rage froide. En matière de stupidité, chez elle-même ou chez les autres, la fille héritière se montrait très intolérante. S'insulter entre alliés, alors qu'un ennemi risquait d'arriver, était sans doute le comble du crétinisme. Avienda serra très fort le manche de son couteau. Puis elle s'unit au Saïdar, le torrent de vie et de joie qui déferla en elle lui donnant envie de pleurer. Les matriarches recouraient au pouvoir uniquement quand les mots avaient échoué, mais ici, ni le verbe ni l'acier ne seraient efficaces. Mais qui tuer en premier? Là était toute la question.
« Assez !»
hurla Ninévé, son cri perçant obtenant immédiatement le silence. Alors que des regards étonnés se tournaient vers elle, l'ancienne sage-dame braqua sur les tricoteuses un index menaçant.
« Cessez de vous comporter comme des gamines !»
Mais, un ton un peu plus doux, mais pas beaucoup.
« Vous avez l'intention de brailler, jusqu'à ce que les rejetés arrivent, s'emparent de la coupe et nous capturent avec ?»
Ninévé se tourna vers les hâtas admirés.
« Quant à vous, cessez de saisir le moindre prétexte pour dénoncer notre accord. Vous n'aurez pas la coupe avant de l'avoir entièrement honorée, c'est compris ? N'espérez pas qu'il en aille autrement. »
Elle se tourna vers les Aes Sedai.
« Et vous ?»
Elle s'arrêta, coupée dans son élan par une simple constatation. Les sœurs ne s'étaient pas jointes à la mêlée, s'efforçant au contraire de rétablir le calme. Et aucune ne s'était unie à la source. Ça ne suffit pas pour calmer Ninévé, bien entendu. Toujours hors d'elle, elle tira rageusement sur son chapeau de paille. Mais Rehan et ses compagnes, rouges de honte, avaient baissé les yeux. Et les hâtas admirés n'en menaient pas bien large. Même si elle continuait à marmonner et refusait de soutenir le regard furieux de l'ancienne sage-dame. L'aura du Saïdar s'éteignit autour d'une femme, puis d'une autre, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'Avienda soit la dernière à être unie à la source. La hyène sursauta quand Elaine lui tapota le bras. Décidément, elle se ramollissait. Se laisser surprendre ainsi, et tressaillir en plus.
« Cette crise semble réglée, »
souffla Elaine.
« Nous devrions peut-être partir avant que la prochaine éclate. »
Seule une touche de rose sur ses joues indiquait qu'elle avait été en colère. Le même signe était visible sur Birgit. Depuis qu'elles étaient liées, les deux femmes réagissaient de la même façon.
« Il est plus que temps, oui. »
acquiesça Avienda. Si elle restait encore un peu ici, elle finirait par être aussi mollassonne qu'une femme des terres mouillées. Tous les regards la suivirent quand elle vint se placer au centre de la cour, à un endroit qu'elle avait étudié, jusqu'à se le représenter mentalement dans ses moindres détails. Quand elle canalisait le pouvoir, maniant le Saïdar, la hyène éprouvait une joie qu'elle aurait été incapable de décrire avec des mots. Être emplie de Saïdar, ça revenait à vivre plus intensément qu'à aucun autre moment. Une illusion, selon les matriarches, aussi trompeuse et dangereuse qu'une oasis mirage dans le Termoul, la zone la plus aride de la tierce terre. Pourtant, ce sentiment lui semblait plus réel que les pavés sous ses pieds. Alors qu'elle était au maximum de ses possibilités, elle aurait voulu puiser encore plus de Saïdar. Quand elle commença son tissage, toutes les femmes se massèrent autour d'elle. Même après tout ce qu'elle avait vu dans sa jeune vie, Avienda s'étonnait encore que les Aes Sedai ne sachent pas faire certaines choses. Plusieurs tricoteuses étaient assez puissantes, mais seules Soumeko et Rehan, ça c'était une surprise, étudiaient ouvertement ce qu'elle était en train de faire. Sumeko alla jusqu'à secouer une épaule pour enchasser la main de Nineveh, qui la lui tapotait de manière encourageante. Cette réaction valut à la tricoteuse un regard furibard de l'ancienne sage-dame. Peine perdue, car Sumeko n'avait Dieu que pour Avienda. Toutes les Hatan Mire étaient assez puissantes. Le marché leur donnant tous les droits, elles observaient avec le même regard avide que lorsqu'elles contemplaient la coupe. Les flux d'Avienda se combinèrent, créant une stricte équivalence entre cet endroit et celui qu'elle avait choisi sur une carte, en compagnie d'Elaine et de Nineveh. Bougeant une main comme si elle écartait le rabat d'une tente imaginaire, Avienda s'éloigna du protocole que lui avait enseigné Elaine. Mais c'était presque tout ce qu'elle gardait en mémoire de ce qu'elle avait fait un certain jour, très longtemps avant qu'Elaine tît son premier portail. Une ligne lumineuse verticale apparut, tourna sur elle-même et devint une ouverture béante dans les airs. Un passage d'environ 6 pieds de haut pour 6 de large. Derrière, on voyait une clairière entourée de très grands arbres. Situé des lieux au nord de la ville, sur la rive opposée du fleuve, ce coin de forêt était semé de très hautes herbes qui oscillaient au gré du vent. Juste derrière le portail, elles étaient coupées nettes comme par une faux. Si un portail ne tournait pas vraiment sur lui-même quand il s'ouvrait, ses bords étaient aussi tranchants que le fil d'un rasoir. Avienda contempla son œuvre avec une profonde insatisfaction. Pour réaliser ce tissage, Elaine utilisait une fraction de sa puissance. En revanche, Laiel devait mobiliser toute la sienne pour un résultat moins impressionnant. Cela dit, elle aurait pu ouvrir un passage aussi grand que ceux de sa presque sœur, si elle avait pu utiliser la combinaison de flux qu'elle avait tissée d'instinct pour échapper à Randaltor, dans ce qui lui semblait une éternité plus tôt. Mais ses efforts restaient vains. Impossible de se rappeler ce qu'elle avait fait, à part des bribes sans utilité. Étrangère à la jalousie, au contraire, elle se réjouissait des exploits de sa presque sœur, Avienda était cependant humiliée par son échec. Si elle l'apprenait, Sorilea et Amis ne la laisseraient pas s'en tirer comme ça, surtout en ce qui concernait la honte. De la fierté mal placée, dirait-elle sans doute. Encore qu'ayant été une promise, Amis comprendrait peut-être. Il était honteux d'échouer, quand on aurait dû réussir. Si elle n'avait pas dû maintenir le portail, Avienda aurait couru se cacher dans un trou de souris. Le départ ayant été soigneusement préparé, tout le monde se mit en branle dès que le portail eut fini de s'ouvrir. Deux tricoteuses forcèrent la sœur noire à se relever, et toutes les Hatta admirées se rangèrent en ligne derrière Renail d'Incalon. En même temps, les domestiques commencèrent à faire sortir les chevaux des écuries. L'âne, Birgit et Sieri l'Arjuna, un des champions de Karéan, traversèrent alors le portail. Comme les phares d'Areismaï, les champions tenaient à passer les premiers en toutes circonstances. Avienda les aurait bien accompagnés, mais c'était hors de question. Contrairement à Elaine, elle n'aurait pas pu faire plus de 5 ou 6 pas sans que le tissage commence à faiblir. Idem si elle essayait de le nouer. Vraiment, c'était très frustrant. Aucun véritable danger n'étant en vue, les Aes Sedai traversèrent à leur tour, Elaine et Nineveh les suivants. Dans cette région boisée, les fermes abondaient. Et il fallait prévoir d'écarter un éventuel berger ou un couple d'amoureux afin qu'ils n'en voient pas trop. En revanche, aucune créature ni aucun suppôt des ténèbres ne pouvait être informé pour la clairière. Seule Elaine, Nineveh et elle-même savaient qu'il s'agissait de leur destination, et elle n'avait pas parlé en la choisissant, par crainte des oreilles indiscrètes. Debout devant le portail, Elaine interrogea Avienda du regard. Laiel lui fit signe de passer. Sauf s'il y avait une raison pressante de les modifier, les plans devaient être suivis. Les Hatta Admiré commencèrent à traverser le portail, chacune marquant un temps d'arrêt en approchant de ce passage, dont elle n'aurait même pas imaginé l'existence quelques jours plus tôt. Soudain, le picotement revint entre les omoplates d'Avienda. Inquiète, elle leva les yeux vers les fenêtres qui dominaient la cour. Il devait y en avoir du monde, derrière les volets blancs en fer forgé artistiquement ajourés. Tailin avait ordonné aux domestiques de rester loin des fenêtres. Mais qui aurait pu empêcher Tesslin, Jolin ou... Une idée incita Avienda à regarder plus haut, vers les dômes et les tours. Il y avait de courts chemins de ronde au sommet de certaines de ces dernières. Et sur l'un d'eux, on distinguait une silhouette sombre dans un halo de soleil. Un homme. Avienda retint son souffle. Rien dans l'attitude de l'inconnu n'était menaçant. Pourtant, elle comprit qu'il était responsable des picotements. Une créature de ténèbres ou un rejeté ne serait pas restée simplement là à regarder. Mais ce maudit golem, alors que le sang se glaçait dans ses veines, Laiel songea qu'il pouvait s'agir d'un simple domestique du palais. Oui, c'était possible, mais elle n'y croyait pas un instant. Et avoir peur n'avait rien de honteux. Avienda regarda nerveusement les femmes qui traversaient le portail avec une lenteur terrifiante. La moitié des Hatta Admirées était passée, et les tricoteuses attendaient derrière avec la prisonnière, l'appréhension que leur inspirait le passage, occultée par l'agacement de voir les sauvages traverser avant elles. Si Avienda exprimait ses soupçons à voix haute, Réan et ses compagnes s'enfuiraient sûrement. La moindre mention des ténèbres les faisait crever de peur. Et les Hata Almiré en profiteraient pour revendiquer la coupe sur le champ. Pour elles, cet objet passait avant tout. Cela dit, seule une crétine finie serait restée là à se gratter le crâne, tandis qu'un lion approchait du troupeau qu'on l'avait chargé de surveiller. Avienda prit une Hata Almiré par la manche de soie rouge de son chemisier.
« Corinne, dis à Elaine que... »
Un visage d'ébène se tourna vers la Yelle, les lèvres pincées jusqu'à ne plus paraître charnues et les yeux incroyablement durs. Quel message envoyé qui ne sèmera pas la panique et n'inciterait pas les Hata Almiré à la contestation.
« Dis à Elaine, à Nineveh, d'être prudente. Les ennemis arrivent toujours quand on ne les attend pas. Dis-le-leur, quoi qu'il arrive. »
La régente des vents acquiesça, sans trop cacher son impatience. Mais curieusement, elle attendit qu'Avienda les lâche, avant de se remettre en chemin et de traverser le portail d'un pas hésitant. Au sommet de la tour, le chemin de ronde était désert. Avienda n'en fut pas rassurée pour autant. L'homme pouvait être en train de se diriger vers la cour. Qui ou quoi qu'il soit, il était dangereux. Ça n'était pas dû aux fantaisies de son imagination. Les quatre derniers champions avaient formé un carré autour du portail. Ceux-là seraient les derniers à partir. Et malgré tout le mépris qu'elle éprouvait pour leurs épées, Avienda se félicita qu'il y ait avec elle des gens capables de manier l'acier. Même si ces hommes n'auraient pas eu plus de chance qu'elle, ou que les domestiques attendant avec les chevaux, face à un rejeté ou au golem. Morose, Avienda puisa encore du saïdar, jusqu'à ce que la douceur exquise soit à un souffle de se transformer en douleur. Si ça se produisait, un souffle de plus, et la douleur deviendrait une insupportable souffrance, durant la fraction de seconde nécessaire pour mourir, ou perdre à jamais l'attitude à canaliser. Ces fichues femmes ne pouvaient-elles pas accélérer un peu le rythme? Il n'y avait aucune honte à avoir peur, bien sûr. Mais Avienda commençait à craindre que l'angoisse se lise sur son visage.